Alexei Apoukhtine, le journal de Pavlik Dolsky, 1891. 6 novembre. Hier, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Voilà déjà 8 jours que je suis souffrant. Sans doute, ce n'est rien de sérieux, mais enfin, je ne me sens pas bien. J'ai mal à la tête, je tousse. La nuit, je ne dors pas et dans la journée, je suis excessivement faible. Je me suis donc décidé à faire appeler ce médecin que je rencontre souvent chez Maria Petrovna. Il a fait ce que font en pareil cas tous les médecins. Il m'a ausculté, a pris ma température et s'est préoccupé de la langue et du pouls. Puis, trouvant tout en bon état, il s'est assis, pensif, devant le bureau. Avant de faire l'ordonnance, il se leva et de nouveau approcha son oreille de mon cœur, puis hocha la tête d'un air peu satisfait. Je l'interrogeai. « Ben, voyez-vous, commença-t-il en hésitant et en cherchant ses mots, votre cœur est bon, mais comment vous dire ?»« Regardez vos pantoufles, vous les portez depuis longtemps et pourrez les porter longtemps encore. » Pourtant, le bout commence à s'user, elles ont fait de l'usage. C'est bien comme votre cœur, il peut servir encore. Quel âge avez-vous?
Quel âge, moi?
Oui, vous. Qu'y a-t-il donc qui vous étonne?
C'est que je ne pense jamais à mon âge, j'ai plus de 40 ans.
Le docteur sourit. Je ne doute pas que vous ayez plus de 40 ans, mais combien au juste? Peut-être plutôt 50.
Si vous voulez, à peu près.
Eh bien, voyez-vous, à 50 ans, il faut bien se dire qu'on est un vieillard, et ne pas s'étonner que le cœur n'ait plus la vigueur de la jeunesse.
Le docteur s'approcha de la table, l'air résolu, et écrivit 3 ordonnances.
Pourrais-je au moins sortir aujourd'hui ? Demandai-je timidement d'une voix qui suppliait.
Non, pas du tout. Demain, d'heure en heure, vous prendrez alternativement les 2 potions. Pour la nuit, frictionnez-vous avec l'onguent, je reviendrai après-demain.
Mais j'ai promis à Maria Petrovna de dîner chez elle. Vous savez qu'elle attend sa nièce aujourd'hui.
Non, cela ne fait rien. En sortant d'ici, j'irai chez Maria Petrovna et je lui dirai que je vous ai défendu de sortir. La nièce, vous aurez le temps de la voir. Elle passera tout l'hiver chez Maria Petrovna.
Et serrant négligemment le billet que je lui avais glissé à la dérobée, comme si je faisais quelque chose de honteux, le docteur s'éloigna, l'air grave. Cette visite du médecin m'a conduit aux plus tristes réflexions. Jusqu'ici, je m'étais toujours cru jeune, et tout à coup, je suis un vieillard. Hier encore, je buvais, mangeais, dormais, faisais la cour aux femmes comme un jeune homme. À présent, voilà tout changé. Tout à l'heure, en fouillant dans ma table de travail, j'ai trouvé un vieux cahier jauni portant comme titre Note sur ma vie, Dresde. J'ai commencé ces pages où, il y a de longues années déjà, je vivais à l'étranger, l'âme profondément troublée. Voici les dernières lignes que j'y avais écrites. Il est temps de finir, je vois que je ne comprends ni moi ni la vie qui m'environne. Le temps viendra où mon âme sera tranquillisée. Le temps de la triste vieillesse, ce jour-là peut-être reprendrai-je ses notes. Évidemment, le moment est venu. Il y a longtemps que mon âme est tranquille. La route de la vie est presque achevée. Il est temps d'établir mon bilan. Toute ma vie, je n'ai pas que mangé, dormi et fait l'amour, mais j'ai encore observé et réfléchi. Et je veux examiner le résultat de ces froides observations de l'esprit et mes comptes douloureux du cœur. Je ne sais s'il sortira quelque chose de ces notes, mais en tout cas, je suis content d'avoir enfin trouvé une occupation à ma portée. Mais pourquoi donc serais-je un vieillard?
C'est pure sottise. Mon visage est jeune, je n'ai pas une ride, au bal je danse, et les mamans me considèrent comme un parti possible. Enfin, tout le monde m'appelle Pavlik Dolski. Seules les personnes qui me connaissent très peu m'appellent Pavel Matveyevitch. Sinon, toujours Pavlik, Pavlik, et on ne m'appelle pas un vieillard Pavlik. Récemment encore au club, j'ai entendu un monsieur dire à un vieillard qui cherchait un partenaire pour le whist « Eh bien voilà Pavlik Dolski qui fera votre affaire ». Cette familiarité me blessa un peu, car je connais à peine ce monsieur. Mais à présent, je lui donne tout à fait raison. Il n'y a pas à dire. Tout le monde m'appelle ainsi. Oh, le stupide docteur qui se rajeunit et fait les yeux doux à Maria Pietrovna, il veut que je sois un vieillard, mais c'est idiot. Idiot, idiot. 8 novembre. Aujourd'hui, j'ai tiré de mon bureau la collection de mes portraits que j'avais rapportés de la campagne après la mort de ma mère, et je me suis mis à les examiner. Le premier, un daguerréotype, date de mon premier voyage à Pétersbourg. Oh, il est presque tout effacé. À la place du visage, il n'y a qu'une tache blanche. Et le suivant est déjà une photographie, et j'y suis représenté en uniforme de page. Oh, quel gentil garçon j'étais dans ce temps-là. Puis me voici en uniforme de hussard, puis en frac avec la chaîne d'arbitre territorial, ensuite en uniforme de chambellan, et puis encore dans des groupes. Un où je figure en compagnie d'Alyosha Oskoltsev et de sa femme, a excité en moi un pénible souvenir et éveillé ma conscience depuis longtemps endormie. J'ai eu beaucoup de peine à me séparer de ces muets témoins des tempêtes passées. Après quoi, je m'assis devant la glace et commençai à comparer mon visage à ces divers portraits. À mon sens, c'est avec le portrait du page que j'ai gardé le plus de ressemblance. Le visage est presque le même. Seulement, j'ai aujourd'hui de grandes moustaches que je n'avais pas alors, et il faut le dire aussi que les cheveux sont plus rares. Mais le regard, l'expression n'ont pas changé. Le docteur me surprit dans cette occupation. « N'est-ce pas, Fyodor Fyodorovitch ?» lui demandai-je, « que je ressemble à ce page, qu'il n'y a pas grande différence. »« Mais il y en a une petite. D'abord, le page n'a pas de rides. »« Ce maudit docteur me rendra fou. » Sans doute le mot « ride » m'est connu depuis longtemps. Je l'ai souvent employé dans la conversation, mais je ne me suis jamais rendu compte de son sens véritable. « Mais où donc ai-je des rides ?» exclamai-je avec désespoir. Le docteur me les indiqua. « Mais non, ce ne sont pas des rides, ce sont tout simplement de petits plis de la peau. » Oui, parfaitement, mais quand vous étiez page, vous n'aviez pas ces petits plis, aujourd'hui ils y sont. Bon, ce sont les réflexions, les nombreuses pensées. Les nombreuses pensées et davantage les longues années. Mais ne vous agitez pas, et laissez-moi écouter votre cœur. Chez ma défunte mère, qui était toujours malade, chez Maria Pietrovna, qui, toujours bien portante, se soigne sans cesse, j'ai observé bien des types de médecins. Fyodor Fyodorovitch appartient au plus odieux. C'est un médecin ironique, un faiseur de bons mots. J'ai toujours peur qu'il ne jette dans l'ordonnance un de ces calembours latins dont on ne réchappe point. 19 novembre. Aujourd'hui, Maria Pietrovna est venue me voir en compagnie du docteur. Maria Pietrovna est une femme très remarquable. Je crois avoir été amoureux d'elle tout enfant. J'eusse peut-être oublié cette circonstance depuis longtemps déjà, si elle-même ne me le rappelait pas parfois avec sa façon de dire « Vous qui m'avez tant aimé, nous sommes du même âge, mais l'an passé il s'est trouvé qu'à l'attendre, j'ai 5 ans de plus qu'elle. » Je fus son témoin quand elle se maria avec le général Kounichev, déjà âgé et qui mourut au bout de 6 ans, lui laissant l'hôtel qu'elle habite l'hiver et une grande propriété près du Riazan où elle passe l'été. C'est à présent une gauze blonde assez fraîche et très bien conservée, non seulement pour l'âge qu'elle a, mais encore pour celui qu'elle se donne. C'est une femme qui est loin d'être sotte, mais elle serait beaucoup plus sage si elle n'était pas si distraite. Et elle se tient attentivement au fait de la littérature, lit la revue des deux mondes d'un bout à l'autre, s'y attarde longuement et sa conversation révèle toujours l'article qu'il a le plus spécialement retenu. Un jour, à un dîner où l'on parlait d'une actrice française nouvelle, elle interrompit la conversation pour m'apostropher. « N'est-ce pas, Paul, que l'impératrice byzantine Zoé était une femme étrange ?» Une autre fois, elle demanda à un parent éloigné de feu son mari, Nicolas Kolnitchev, élève d'une école militaire qui passait chez elle les vacances. « Que pensez-vous, Nicolas, de la situation des fellahs d'Égypte ?» Pour toute réponse, l'autre fit sonner ses éperons. Je vois Maria Pietrovna presque tous les jours. Le plus souvent, je m'ennuie avec elle. Mais je me sens attiré chez elle comme dans un havre calme, sûr, coutumier. Parfois, nous passons ensemble des soirées entières à parler de poésie et d'amour, et aussi des potins de la ville. Elle aime la musique et joue très volontiers les nocturnes de Chopin, mais elle les joue avec tant de sentiments et si lentement qu'on ne les reconnaît plus. Et quelquefois, par distraction, elle s'embrouille. J'ai remarqué que, dans ses jours de mélancolie, elle joue les cloches du monastère. Aux premières notes de ce morceau lugubre, le sommeil me gagne. Maria Pietrovna n'admet que l'amour platonique. Avec ce Nicolas Kouznitchev dont je viens de parler, il lui est même arrivé l'an dernier une histoire très caractéristique. Quand il fut promu officier, Maria Pietrovna prit grand soin de lui. Elle l'invitait sans cesse et organisait pour lui des soirées, malgré sa haine des réceptions. Je me réjouissais pour elle et pensais qu'après avoir médit toute sa vie de l'amour, elle était enfin amoureuse pour de bon. Mais voici la fin. Un matin, on me remit ce billet laconique. « Mon cher Paul, venez me voir, j'ai à vous parler. » Je trouvais Maria Pietrovna dans les larmes et entourée de potions. « Je vous ai prié de venir, » commença-t-elle d'une voix faible, « parce que je vous crois un ami véritable. Vous n'imaginez pas combien il est triste de perdre ses illusions. Je suis tout à fait désillusionnée sur le compte de Nicolas. » Il ne m'a pas comprise. Mais qu'a-t-il fait ? Je ne puis vous le dire, je ne puis dire qu'une seule chose, il ne m'a pas comprise. Ne comprenant rien moi-même, je suis allé chez Nicolas. Celui-ci reçut d'abord ma question assez froidement. Ben, vous comprenez bien, Nicolas, lui dis-je, que je ne suis pas du tout venu faire une enquête. À vrai dire, cette affaire ne me touche pas du tout, seulement, comme ami de Maria Pietrovna et le vôtre, je veux faire cesser le malentendu qu'il y a entre vous. Qu'est-il arrivé ? Absolument rien, répondit-il en riant. J'ai passé toute la soirée chez ma tante, tout le temps elle a joué des nocturnes, puis on a servi à souper, après je ne sais trop pourquoi. « J'ai peut-être baisé sa main une fois de trop, elle s'est fâchée, s'est retirée. »« Non, je suis persuadé que vous n'avez pas voulu offenser Maria Pietrovna, mais néanmoins, pourquoi ne lui présenteriez-vous ces excuses ?»« Ben, si vous voulez, je suis prêt à en faire 100 000. » Aussitôt, je me suis rendu avec le coupable chez Maria Pietrovna. Il s'excusa respectueusement et reçut son pardon. Mais de ce jour, il cessa ses visites. Cette fois, il l'avait tout à fait comprise.
Aujourd'hui, Maria Pietrovna est venue me voir, tout de noir vêtue, avec un visage d'enterrement. À ma vue, elle s'égaya.
Mais Paul, je ne vous trouve pas si mal, que me l'a dit Fyodor Fyodorovitch.
Le docteur lui lança un regard très expressif, mais qui fut vain, elle ne le vit pas. Seul, moi, je le remarquai.
C'est vrai, oui, Paul est un peu abattu, mais regardez, il a des couleurs. Et dans tous les cas, Fyodor Fyodorovitch, il me semble qu'il ne faut pas le traiter par des moyens violents. On pourrait lui donner Pulsatilla ou Mercurius Solubilis, qu'en pensez-vous?
Maria Pietrovna, vous savez ce que je pense de l'homéopathie, répondit très sèchement le docteur.
Oh pardon, oui, j'oubliais. Cependant, je crois que Pulsatilla ne peut pas faire de mal.
Si elle ne peut pas faire de mal, elle ne peut pas faire de bien. Et si elle peut faire du bien, elle peut aussi faire du mal. C'est un cercle vicieux de laquelle vous ne sortirez pas.
Fyodor Fyodorovitch, combien de fois vous ai-je dit que cercle est du masculin et qu'il faut dire cercle vicieux et non vicieuse?
Remarqua d'un ton de doux reproche Maria Pietrovna. Le docteur, piqué d'avoir été repris pour son français, dont il était entiché, et surtout de l'allusion à l'homéopathie, annonça qu'il avait à voir sur l'heure un client gravement malade. Malgré mes instances, Maria Pietrovna ne consentit pas à rester seule et partit en même temps. Peut-être redoutait-elle de ma part une incartade du genre de celle Nicolas Kolnitchev. D'ailleurs, elle put donner de son départ un motif excellent, sa nièce. De cette nièce, qui depuis quelques jours était sortie de pension, j'ai les oreilles rebattues. Elle s'est imaginée l'aimer beaucoup, bien qu'il y ait fort longtemps qu'elle ne l'ait vue. Elle dit à présent que sa nièce est charmante, elle l'appelle l'enfant de mon cœur, et regrette beaucoup que je ne la connaisse pas encore.
Moi, je ne le regrette nullement. Ça doit être une pensionnaire blonde et sentimentale, comme sa tante.
1er décembre. 3 semaines ont passé déjà depuis le début de ma maladie. J'ai essayé une foule de mixtures et d'onguents. À chaque remède nouveau, le docteur m'assure que le remède a agi, et pourtant, il ne lève pas les arrêts. Dans la soirée, quelques amis viennent me voir. Aujourd'hui, personne n'est venu. Et c'est avec joie que je me remets à mon journal. Pour établir le bilan de ma vie passée, il me faut d'abord définir l'homme. Ai-je été bon ou mauvais, intelligent ou imbécile, heureux ou malheureux? Après avoir allumé un cigare, je me suis assis sur le divan et pendant 2 heures, j'ai réfléchi là-dessus. Ma conclusion a été qu'une question de ce genre est insoluble, même pour l'homme le plus sincère. Quand on tâche à se rappeler tout son passé, aussitôt se présentent avec netteté toutes nos bonnes actions. On a fait du bien à celui-ci, on a sauvé celui-là. Tel jour, on pouvait faire une méchanceté et on s'en est abstenu. Le souvenir des mauvaises actions est beaucoup plus pâle. Si à votre conscience apparaît spontanément un acte absolument mauvais, cette fidèle compagne se fait aussitôt votre avocat. Elle a vite fait d'inventer toutes les excuses possibles, comme si l'aveu de votre culpabilité vous exposait à la déportation. C'est ce qui vient de m'arriver et qui m'arrive chaque fois que je me souviens d'Alyosha Okontsev. Mais ce sera pour une autre fois. Il est encore plus difficile d'apprécier ses qualités que ses actes. Pour juger autrui, nous avons un dictionnaire entier de nuances où nous n'avons qu'à choisir. Sur 3 hommes qui tiennent autant à leur bien, du premier qui nous est sympathique, nous dirons qu'il est économe, prudent. Du second, si nous ne l'aimons pas, qu'il est intéressé.
Nous ne pourrons souffrir le troisième, alors c'est un lardre. La plupart des historiens se prononcent d'après leur sympathie, ou pour mieux dire, leur caprice. Tout en respectant la vérité, ils peuvent traiter tel personnage de sévère ou de cruel, de bon ou de faible. Il va sans dire qu'en se jugeant soi-même pour sincère qu'on soit, on choisira les nuances les plus tendres. Cependant, il en est qui ont à dessein présenté leur passé sous les couleurs les plus sombres. Des confessions de ce genre masquent mal l'orgueil de l'auteur. Lecteur, voyez à quel point je suis sévère pour mon passé et affairaisant quel héros je suis devenu. À demain. 2 décembre. Suis-je intelligent ou bête? On me demanderait à l'improviste de le dire de n'importe lequel de mes amis que je serais très embarrassé de répondre sur le champ. Je ne parle pas des hommes de génie ni des purs idiots. Les uns sont d'ailleurs aussi rares que les autres. Il m'est encore plus difficile de me prononcer sur mon compte. On se fait généralement de l'esprit les idées les plus différentes. Dans le monde, on dit le plus souvent d'un homme qu'il est intelligent quand il sait par cœur beaucoup de calembours français ou qu'il critique tout le monde. Chez les savants, on tient pour intelligent celui qui a la patience ou le temps de lire la plus grande somme de choses inutiles. Et pour les gens d'affaires, c'est celui qui est le plus retors. Dire de quelqu'un qu'il a de l'esprit ou que c'est une bête ne signifie absolument rien. Cela dépend uniquement de l'état où l'on se trouve. J'ai dit, par exemple, que Maria Pietrovna, malgré ses distractions, n'est pas une sotte. Mais quand je l'ai écrit, j'étais de très bonne humeur. Mal disposé, je pouvais dire absolument le contraire. Et je n'aurais pas été loin de la vérité. Hier, elle m'a envoyé des pilules homéopathiques avec la recommandation la plus sévère de n'en pas parler au docteur. Alors aujourd'hui, Fyodor Fyodorovitch est entré chez moi en me demandant « Eh bien, et la pulsatile, vous a-t-elle réussi ?»« Qui vous a dit ?»« Maria Petrovna, naturellement. » Pour moi, ce n'est qu'en logique que l'esprit donne sa mesure. Or, de ce point de vue, je ne puis pas dire que je sois un sage. Souvent, je n'ai pas fait ce que j'avais résolu, et néanmoins, je puis jurer n'avoir jamais menti avec préméditation. Dans mon enfance, ma vieille tante Avdotia Markovna me grondait un jour pour une espièglerie. « Toi, tu es sage, me dit-elle, mais ta tête ne l'est pas. » Je crois qu'elle avait raison. J'appartiens à une vieille famille noble, conservatrice, et l'éducation tant que la vie militaire m'ont fait qu'aggraver mon conservatisme. Le principal, l'unique roman de ma vie, dont je parlerai plus tard, me fit prendre ma retraite. Je m'installai à la campagne où je fus choisi comme arbitre territorial. Notre province était réputée pour la libéralité de ses arbitres, et parmi eux je fus l'un des plus libéraux. Comment cela s'est-il fait? Je ne me chargerai pas de l'expliquer à présent. Mais dans ce temps-là, toutes les opinions étaient mêlées jusqu'au ridicule. Chacun pouvait se dire ce que bon lui semblait. Dans mon enfance, on m'apprenait que le conservateur doit suivre les impulsions du gouvernement, et il arrivait que le gouvernement était plus libéral que la société. Notre gouverneur, jadis l'un des propriétaires les plus cruels, pleurait d'attendrissement au mot d'émancipation. Il est probable que si le gouvernement avait décidé de remettre les paysans en esclavage, ses larmes auraient coulé encore plus abondamment. Étais-je absolument sincère? Oui et non, comme dit une dame de ma connaissance qui veut donner à entendre qu'elle sait tout, mais sans se mettre dans l'embarras. Il m'arrivait de m'abandonner à de graves réflexions. « Prenons, pensais-je,
mon oncle Platon Markovitch. Jusqu'à l'âge de 70 ans, il fut le plus parfait honnête homme qu'on pût voir. Les paysans l'adoraient. Mais il est du vieux temps, et il lui est difficile de se faire aux idées nouvelles. Il a peur de la ruine pour ses enfants. Qu'y a-t-il donc d'extraordinaire qu'il défende de son mieux ses intérêts? Peut-on dire qu'il soit malhonnête? Mais ses réflexions étaient étouffées par le bruit des assemblées générales, les articles de journaux et surtout par la mode. Et nous étions la terreur de la province et ne faisons pas de différence entre les hommes comme Platon Markovitch et les vrais suppôts du servage. Cette conduite passionnée, évidemment injuste, était peut-être nécessaire pour le rôle historique que nous avons à jouer. Et quand il fut fini, nous descendîmes de scène et je retournai tout naturellement dans le cercle ancien des hommes et des idées. L'année dernière, j'ai rencontré à Pétersbourg quelques anciens terroristes avec lesquels j'avais gardé des relations amicales. Nous convînmes de dîner ensemble au restaurant. Il y eut tout d'abord un peu de gêne, mais sous l'influence du vin et des vieux souvenirs, cette sensation se dissipa, et à la fin du dîner, on discourut des planteurs, de la lutte contre les planteurs, et l'on brandit combien de mots jadis terribles, maintenant sans vertu. Pour quelques heures encore, nous nous crûmes revenus des califes. Cette fois, étais-je sincère? Je vous répondrai encore, comme cette dame de ma connaissance, oui et non. Les idées que ces mots représentent sont depuis longtemps passées de mode. Autrefois, ils suscitaient en foule des conceptions neuves, la rupture de tout le passé. Oh, ce n'est plus à présent que des clichés. 6 décembre. Passons à une autre question. Ai-je été heureux ou malheureux? D'un point de vue ordinaire, sans doute, j'ai été très heureux parce que j'ai de la fortune et ce qu'on est convenu d'appeler une situation dans le monde. Mais l'argent n'est qu'un bien négatif. Il en est comme de la santé, on ne le désire que quand il manque. Selon moi, le bonheur ne dure qu'un moment. Dès que l'homme a obtenu ce qu'il désire, il n'en veut déjà plus. Et le plus souvent, ce moment est encore empoisonné par l'immixtion des amis ou des ennemis, ce qui est à peu près la même chose. Où sont nos amis? Où sont nos ennemis? La véritable amitié, fondée sur de longs rapports, sur l'affection et l'estime réciproque, est rare dans le monde. Et ces relations dans lesquelles on se traite d'amis ne nécessitent ni l'estime ni l'affection. En français, il n'y a qu'un mot pour désigner les vrais amis et les autres. En russe, il y a deux mots, «друзья» et «приятели». La nuance a une grande importance. Les priatelli sont des hommes qui croient de leur devoir de fouiller dans votre âme et dans votre vie, qui, chaque fois qu'ils vous rencontrent, expriment une grande joie et sont très peu attristés s'il vous arrive une peine. J'ai remarqué que les relations des priatelli naissent beaucoup plus souvent de vices communs que de vertus communes. Les vertus ou les talents communs excitent la rivalité, c'est-à-dire l'envie. L'homme qui se reconnaît un vice est très heureux de le rencontrer chez d'autres hommes, et il est prêt à le trouver charmant pour se justifier soi-même. L'hostilité entre les hommes naît parfois du choc des intérêts communs. C'est l'hostilité naturelle, celle de deux chiens pour un os jetés entre eux. Mais souvent, les causes de l'hostilité sont aussi légères et aussi accidentelles que celles de l'amitié. Dans une maison amie, vous rencontrez pour la première fois M. N.N. et vous dites devant lui que la cantatrice Solveggio chante faux. Si N.N. se taisait ou était de votre avis, peut-être deviendriez-vous, vous et lui, pour toute la vie, des priatelli. Mais N.N. est amoureux de la cantatrice Solveggio et vous contredit assez durement. Vous êtes étonné du ton de votre contradicteur et vous ripostez par quelques pointes qui cependant n'excèdent pas les limites de la courtoisie.
C'en est assez. Hélène est devenue votre ennemi mortel. Il surveille chacune de vos phrases, remarque vos faiblesses et peut-être ne reculera pas devant la calomnie. Combien de fois une hostilité aussi puérile trouble-t-elle les sphères les meilleures, les plus intelligentes? Voici un écrivain, X, très connu et fort estimé, qui a écrit un article sur la Commune. Un autre écrivain, Z, non moins estimé, n'aime pas la Commune et discute l'article de X, en exprimant toutefois sa parfaite estime pour le mérite de l'auteur. Cependant, X prend mal la critique et, dans sa réponse, il dit que Z n'a pour discuter la question aucune compétence. Alors Z convainc X d'une erreur de citation. La polémique s'échauffe de plus en plus et, à la fin, amène X à faire allusion à la situation très fausse de la femme de Z. Z, à son tour, donne clairement à entendre que X a reçu des coups le jour de l'inauguration d'un établissement quelconque. Or, dans ses articles, à l'étonnement et à l'indignation du public, il n'est plus question de la Commune. Mais que dis-je? Le public ne s'étonne nullement, n'est point indigné. La majorité s'intéresse beaucoup moins à la Commune qu'à la correction infligée à X ou aux aventures de la femme de Z. Bon, me voilà aussi loin de mon sujet que X et Z. En revenant à la question du bonheur, de nouveau je me rappelle, malgré moi, cette époque à laquelle j'ai déjà fait allusion, époque d'activité fiévreuse et de bonheur fou qui a empoisonné le reste de ma vie. Demain, je tâcherai de raconter cette histoire qui peut fournir des réponses à quelques-unes des questions que je me suis posées. 7 décembre. Alyosha Okontsev était mon plus proche voisin, mon parent éloigné et mon meilleur ami d'enfance et d'adolescence. Je n'ai jamais rencontré d'homme plus sympathique. C'était, avec de l'esprit et du plus original, le cœur le plus tendre, le plus doux, le plus ingénument confiant. À 23 ans, il épousa une jeune fille de Moscou, de famille noble et riche. Jamais je n'oublierai ma première rencontre avec Hélène Pavlovna. Je venais de prendre au régiment un congé de 3 mois et me rendais à Vassilievska pour arranger des affaires relatives à l'émancipation. En passant à Moscou, j'entrai au restaurant Troïtski et là, au fond de la salle, près de l'orchestre, j'aperçus Alyosha en compagnie d'une gracieuse jeune femme. Il se jeta à mon cou et me présenta sa femme. « Vois-tu, Lily, disait-il avec une vraie joie, tu as eu sans doute le pressentiment que nous le rencontrerions ici. Ce n'est pas pour rien que tu prenais tant d'intérêt à mes récits. Imagine-toi, Pavlik, qu'hier, toute la journée, elle m'a demandé de déjeuner aujourd'hui au restaurant. Je ne pouvais comprendre pourquoi cette fantaisie lui était venue. Je n'avais aucun pressentiment, répondit-elle en souriant, mais je n'avais jamais entendu d'orchestre comme celui-ci, et depuis longtemps déjà, je m'étais promise de déjeuner au restaurant aussitôt mariée. Le déjeuner fut très gai. Je me rappelle qu'au premier abord, la beauté d'Hélène Pavlovna ne fit pas sur moi une grande impression. Je fus seulement surpris de son regard étrange, mystérieux et fixé à distance. Ses yeux verts semblaient poser une question à laquelle nul ne pouvait répondre. Après le déjeuner, la fantaisie lui vint d'aller chez un photographe faire le portrait de notre groupe en souvenir de cette rencontre. Naturellement, nous avons acquiescé à son désir. Et ce groupe, que j'ai appelé prophétique, demeure chez moi le seul monument du passé. Le même soir, nous quittions Moscou pour la campagne. Nos propriétés n'étant distantes que de 4 verstes, nous nous vîmes tous les jours. 2 mois plus tard, je commençais à remarquer que le regard mystérieux s'arrêtait longuement sur moi. Que je fusse amoureux d'Hélène Pavlovna, rien d'étonnant. Mais pourquoi m'aima-t-elle? C'est encore pour moi une énigme. Alyosha était beaucoup mieux que moi, physiquement, et sous tous les autres rapports, je n'ose même pas me comparer à lui. Et notre aventure commença 6 mois à peine après son mariage. Plus tard, quand je songeais à ma conduite d'alors, je me consolais à la pensée d'avoir lutté longtemps contre mes sentiments. Hélas, je dois avouer que si j'ai lutté, ce ne fut pas avec beaucoup de persévérance. Si j'eusse été absolument honnête, je serais parti sans attendre la fin de mon congé, mais je ne partis pas. Puis je fis renouveler mon congé. Puis je donnai ma démission et acceptai les fonctions d'arbitre. Je passai 2 années à la campagne, et ces 2 années sont l'époque la plus intéressante et la plus honteuse de toute mon existence. Ma vie était remplie. Je ne la donnais pas toute à Hélène Pavlovna, mes devoirs d'arbitre occupaient plus de la moitié de mon temps. L'amour était plutôt pour moi un repos, une distraction. Ainsi, je n'ai même pas l'excuse de la passion. Les Okonzev passèrent l'hiver au chef-lieu. Je louais un pavillon dans la cour de la maison qu'ils occupaient, et je venais chez eux chaque fois que j'étais libre. Je ne puis dire que ma conscience fût toujours tranquille. Parfois, je ne pouvais regarder sans effroi le bon et confiant Alyosha. Mais cette conscience même de la profondeur de mon crime et la crainte perpétuelle d'être surpris donnait à notre intrigue un charme particulier, mauvais. À la fin de l'hiver suivant, Alyosha prit froid et tomba gravement malade. Hélène Pavlovna demeura à son chevet et, avec un dévouement admirable, remplit ses devoirs de garde-malade. Mais quand Alyosha fut mieux, elle ne put gâcher son désappointement qui s'accrut quand le docteur décida qu'il fallait qu'Alyosha allât pour 1 an dans les pays chauds. Le laisser seul, Hélène Pavlovna ne le pouvait pas. Se séparer de moi lui semblait impossible. En vain, je jurais que j'irais les rejoindre l'été. Elle était inconsolable. À la fin d'avril, Alyosha, étant en état de supporter le voyage, le départ fut fixé au commencement de mai. Le jour venu, je restais très tard chez les Okontsev. La soirée était si chaude que la porte du balcon était restée ouverte et qu'Alyosha respirait avec plaisir l'air pur du printemps. Hélène Pavlovna était très animée et causait gaiement du voyage prochain, tout en préparant des remèdes pour son mari. Et avec un sourire, elle me dit qu'il était l'heure de partir. J'avais déjà franchi la porte quand Alyosha me rappela. « Tu vois, Pavlik, dit-il en me serrant fortement la main, je voulais te dire, oh, tu ne peux pas t'imaginer comme je suis heureux de pouvoir partir, mais je suis ennuyé de me séparer de toi. Donne-moi ta parole de venir chez nous cet été. » Les plus amers reproches m'eussent moins impressionné que ces paroles amicales. Quelque chose m'oppressait le cœur. Le vague pressentiment d'un malheur me tint éveillé, et ce ne fut qu'au matin que je m'endormis d'un sommeil lourd, troublé. Je fus éveillé par la nouvelle de la mort d'Alyosha. Le docteur perdit absolument la tête devant cette fin prévue, mais il finit par décider qu'elle était due à une rechute et se tranquillisa. On attribua la cause de la rechute à la porte ouverte du balcon. Toute la ville assista au service. Chacun fut frappé de la profonde douleur d'Hélène Pavlovna. Il ne me venait pas en tête de douter de sa sincérité, car moi-même je souffrais cruellement de douleur et de honte. À l'enterrement, elle se frappa la tête contre le cercueil et tomba évanouie sur les marches du catafalque. Je ne savais pas s'il était convenable de lui faire visite le jour même. Mais elle me tira d'embarras en m'écrivant qu'elle m'attendrait à 9 heures. Je la trouvai pâle, mais calme, vêtue d'une robe neuve, blanche, garnie de dentelles. Elle m'aborda par ces paroles. « Ah, quel bonheur que tout cela soit enfin fini !» Et avec un sourire, elle me tendit la main. Je fus si étonné de ces paroles, de ce sourire, qu'il me fut impossible de prononcer un mot. Soudain, une lueur sinistre éclaira les ténèbres où se débattait ma pensée. Hélène Pavlovna avait empoisonné Alyosha. Au moment même, elle prononça en français une phrase dont le sens était qu'aucun acte ne fait hésiter la femme qui aime, tandis que l'homme, oui, je me rappelle qu'elle disait « vous autres », ne pense pas même à apprécier son sacrifice. Si aujourd'hui Hélène Pavlovna avait à répondre en justice de l'empoisonnement de son mari, et que je fusse du jury, en conscience je ne pourrais la déclarer coupable. Mais dans ce jour terrible, la phrase qu'elle prononçait coïncidait si bien avec ma pensée qu'il ne me resta plus l'ombre d'un doute. Je voulais me jeter sur elle, lui arracher l'aveu, je voulais courir et demander l'exhumation et l'autopsie du corps d'Alyosha. Mais je n'en fis rien, je ne songeais qu'à moi, et prétextant un mal de tête, je quittai Hélène Pavlovna en lui promettant de revenir le lendemain matin. Il me semble qu'en lui disant adieu, je la baisai au front. Le lendemain matin, au lever du soleil, je me rendais à Vassilievka. J'arrangeai en hâte mes affaires et partis pour l'étranger. Pendant 4 ans, je voyageais en Europe sans trouver nulle part la tranquillité. La pensée que j'étais, bien qu'indirectement, l'assassin d'Alyosha me suivait partout. Au commencement, Hélène Pavlovna m'écrivit, me suppliant de revenir, puis elle m'accabla de reproches. Je ne lui répondis pas. Je crois que si elle s'était présentée à moi avec son sourire énigmatique, je me serais jeté à ses pieds et aurais cru chacune de ses paroles. Mais ces lettres dures, fâchées, ne faisaient que fortifier mes soupçons. Elle n'y avait jamais fait allusion. Peut-être jusqu'ici les ignore-t-elle. Enfin, le temps passa. Je rentrai en Russie, m'installai à Pétersbourg, repris du service, m'inscrivis au club. Ce fut le commencement de cette vie oisive, mondaine, où un jour après l'autre passe sans apporter ni joie ni douleur, où l'esprit et la conscience s'assoupissent au bruit monotone des petites rivalités, des petites vanités. Je ne suis allé qu'une fois à Vassilievka, à la nouvelle d'une grave maladie de ma mère. Je n'y ai plus trouvé Hélène Pavlovna, et j'ai appris que 2 ans après la mort d'Alyosha, elle s'était remariée avec un comte polonais et que, bientôt après, veuve une seconde fois, elle s'était installée dans ses nouveaux domaines de Pologne. Pendant 15 ans, je n'entendis plus parler d'elle. Au commencement de l'hiver dernier, j'étais à une matinée chez la princesse Kozielskaya et m'apprêtais à partir quand on annonça la comtesse Zavolskaya. « Oh, c'est une vieille amie de Moscou, » expliquait la maîtresse de maison. « Nous sortions ensemble. Dieu, qu'elle a été belle. Maintenant, elle mène ses filles dans le monde. » On vit entrer une dame en robe noire, au visage jaune, aux yeux éteints, sans aucune trace de beauté. 2 jeunes filles l'accompagnaient, très élégamment vêtues. « Chère Hélène, quel bonheur de vous voir !»
prononçait emphatiquement la princesse en roulant son gros corps à la rencontre des visiteuses. Au son de la voix de la dame en noir, je tressaillis. C'était la voix d'Hélène Pavlovna. La princesse la présenta à ses hôtes. Arrivée devant moi, Hélène Pavlovna me toisa d'un regard rapide et, sans me tendre la main, s'adressant à la princesse, elle dit « Oh, nous nous connaissons de longue date. Monsieur était très lié avec mon premier mari. Depuis, j'ai souvent rencontré dans le monde Hélène Pavlovna et son attitude à mon endroit a toujours été froide, jusqu'à l'impolitesse. Une fois, à une soirée chez la même princesse Kosielskaya, je me trouvais par hasard avec elle à une table de jeu. Au commencement, tout alla bien, mais quand il lui fallut jouer avec moi, elle appela un vieux général et lui remit son jeu en disant qu'elle était fatiguée. Sa fille cadette, qui était du second lit, n'est pas jolie, bien qu'elle rappelle un peu Hélène Pavlovna dans sa jeunesse. Mais l'aînée est charmante. Par son visage et ses manières, elle est tout le portrait d'Alyosha. Souvent, j'ai voulu l'approcher et faire plus ample connaissance, mais probablement, sur l'ordre de sa mère, elle affecte de regarder dans le vide. Enfin, j'ai raconté brièvement mon roman. Peut-on à ce sujet parler de bonheur? Dans toute cette histoire, ma conduite ne fut ni honnête ni sage. Je pourrais me justifier en disant qu'à ma place, beaucoup auraient fait comme moi, mais est-ce une justification? 23 décembre. Hier, après être resté enfermé 50 jours, j'ai enfin recouvré ma liberté. Ma première sortie a été pour l'arbre de Noël de Maria Petrovna, dont j'entendais parler depuis plus d'un mois. Comme je l'ai déjà dit, Maria Petrovna a horreur des grandes réceptions, car elle pense que tout le monde s'ennuie chez elle. Elle en juge d'après ce qu'elle éprouve elle-même, à s'occuper d'autres qu'elle connaît peu. Elle ne peut réprimer un bâillement nerveux, et même se traite pour cela par l'homéopathie, mais sans succès. On dit qu'une fois, étant au petit salon avec trois dames dont les filles dansaient dans le grand, elle s'endormit complètement. Elle s'est décidée à faire cet arbre pour sa nièce, ce qui prouve combien elle l'aime déjà. Je me suis tellement habitué ces temps-ci à la solitude et à une lampe à abat-jour sombre qu'en entrant chez Maria Pietrovna, je fus ébloui par l'éclat des bougies et la foule des invités. Il y avait beaucoup d'enfants de tout âge, mais encore plus de grandes personnes. À la porte du salon, comme memento mori, se tenait mon médecin en habit à la dernière mode en cravate de soie blanche, et sur sa poitrine brillait en guise de bouton un énorme diamant, faux sans doute. Il me regarda de la tête aux pieds, et me frappant sur l'épaule, il me dit d'un ton protecteur « eh bien, ah mais surtout, ne prenez pas de glace !» Je suis arrivé à grand-peine jusqu'à Maria Pietrovna. Elle semblait non pas ennuyée, mais mélancolique. Je lui en demandais la raison. « Ah, Paul, vous savez comme j'aime les enfants, et Dieu m'a privé de ce bonheur. Ah, que donnerais-je pour que tout cela soit à moi ?» Mais ce serait bien tant pis pour vous, Maria Petrovna. Vous seriez au moins 150 ans. Vous avez toujours le mot pour rire. Comment trouvez-vous ma nièce? Ah, je ne l'ai pas vue. Est-ce possible? Oh, je vais vous la présenter tout de suite. Michel, cherchez Lydia, je vous prie, et me l'envoyez. Michel Kolziewski, un grand et beau page, au visage gai et souriant, partit à la découverte. Le moment d'après, accourut vers nous une fillette très jolie, au nez retroussé, aux yeux noirs provoquants. Ses 17 ans n'en paraissaient pas 15. Ce fut pour moi une surprise, comme si j'avais gagné à l'arbre de Noël. Je ne pouvais m'imaginer que Maria Petrovna eût une nièce aussi charmante. Son visage rose respirait la joie. Elle prit un air sérieux et me salua avec cérémonie. Mais ne put se contenir longtemps et éclata de rire.
Je vous connais depuis longtemps. Chez tante, il y a beaucoup de vos portraits, vous ressemblez beaucoup à Kostia.
Quel Kostia?
C'est mon oncle. Je l'appelle Kostia parce que je l'aime beaucoup. Voulez-vous un bonbon? Ou s'ils ne sont pas fameux, je vais vous chercher des chocolats.
Lydia Lvovna, vint dire Michael Kolviavski, la baronne arrive avec ses filles. Lydia prit de nouveau une mine sérieuse, comme il convient à une maîtresse de maison, et gravement se dirigea vers la baronne. Mais en passant, elle attrapa un gros garçon en veston blanc et lui posa sur la tête un bonnet en papier vert. Et moi, le docteur me prit pour me présenter à son épouse. En général, le docteur est sans façon, il tient à faire voir par tous les moyens qu'il est intime dans la maison. Il parlait très haut et naturellement français. Il a soigné, il n'y a pas longtemps, une cocotte française et a appris d'elle l'argot de Paris. Dans tous les coins du salon, on entendait sa voix. « Coussi, coussa, madame. En voilà une gaffe, par exemple. » Mais cela n'empêchait pas de se tromper sur les genres et de dire « Oh, l'arbre est très belle !» Diable de genre. Oh, il n'arrive pas à s'en tirer. C'est le tendon de cet Achille. Son épouse est une petite femme, très modestement habillée, tout à fait nulle. À ses côtés accouraient à tout instant deux fillettes aux longs cheveux blonds qui apportaient des bonbons, des oranges et des petits objets de l'arbre, et mettait tout cela dans un réticule en soie. À peine avais-je échangé quelques mots avec ma nouvelle connaissance, que Lydia était devant moi, tenant un petit bonnet de papier rose à la main. Une foule de jeunes personnes s'arrêtait à deux pas d'elle. « Voilà Sonia Kozielskaya !» Elle baissait la tête et me regardait malicieusement. « Sonia Kozelskaya, qui dit que je n'oserais pas vous mettre ce petit chapeau? Moi, j'ai dit que si, vous ne vous fâcherez pas. Oh, nullement, si cela vous fait plaisir. Oh, comme vous êtes bon. Tante disait vrai. Non, non, mais non, ce ne serait pas convenable, et Mistake me gronderait. Qui est Mistake? Comment, vous ne connaissez pas Mistake? Mais c'est ma gouvernante. Elle est très sévère. Il vaut mieux que je vous apporte une glace. Ah non, je vous remercie, le docteur m'a défendu de manger des glaces. Le docteur sembla réfléchir et dit « Oh, ce n'est rien, devant moi on peut. » Lydia courut chercher une glace et à la grande joie de la jeunesse, mit sur sa tête le petit bonnet rose que par politesse elle avait appelé le petit chapeau. « Lydia Lvovna, lui dis-je en prenant de ses mains la petite tasse de liquide rose qui avait dû être de la glace, vous me gâtez tant aujourd'hui que je me crois aussi le droit de vous apporter les bonbons. Quels sont ceux que vous préférez ?»«
Les fondants roses. »
Dans sa robe rose, avec le bonnet rose sur la tête et les joues roses elle-même, ressemblait à une fleur rose ou à un bonbon rose. À 11 heures, l'arbre de Noël étant dépouillé, on emmena les petits-enfants, les grands se mirent à danser. Les danses ne cessèrent pas d'un moment, et l'animation était telle que cette fois, Maria Petrovna ne pouvait dire qu'on s'ennuya chez elle. Je fis avec Lydia 2 tours de valse, puis elle me dit « Mais savez-vous que vous dansez très bien, beaucoup mieux que tous les jeunes, excepté Michel ?» « Oh, Lydia Lvovna, pourquoi me faites-vous de la peine? Suis-je un vieillard ?»«
Non, vous n'êtes pas un vieillard, mais cependant vous êtes âgé. »«
Bien, prouvez que vous ne prenez pas pour un vieillard et dansez une mazurka avec moi. » Lydia n'avait pas eu le temps de me répondre que l'insupportable docteur se mêlait à notre conversation. « Non, 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 mon cher, laissez cela. Il est temps de rentrer. En voilà assez pour la première fois. Vous ne pouvez pas danser la mazurka ni souper. » Je protestais timidement. Mais le docteur fut inexorable. « Mais regardez-vous dans la glace. À quoi ressemblez-vous ?» Il fallait obéir. En traversant la salle à manger où il n'y avait personne, je m'arrêtai devant une glace et qui ai-je vu ? J'y ai vu un visage très jeune, très animé, ne ressemblant à personne qu'à Pavlik Dolski, qui toute sa vie a soupé et a dansé la mazurka. Je suis rentré très content de ma soirée. Mais la fatigue, sans doute, car j'ai déjà perdu l'habitude de sortir, m'empêcha longtemps de dormir. Vers le matin, je rêvais que je mangeais un fondant rose.